Philippe Torreton, bonjour. Déjà, vous jouiez le rôle de Laërte, je crois.
Absolument.
En 1994, dans une mise en scène de Georges Lavaudan, la Comédie française. Est-ce que c'est une émotion pour vous de jouer le rôle d'Hamlet?
Oui. De jouer Hamlet dans l'absolu, de le jouer ici, et de voir que ça se passe comme ça. Moi, je trouve que c'est... Voilà, toutes les conditions d'un vrai bonheur personnel, en tout cas de thérapie, visiblement, bah ça a l'air d'être partagé par pas mal de gens, donc ça me réjouit, quoi. Je trouve qu'on a su rassembler avec Jean-Luc Revol, le metteur en scène, mais aussi le conseil général, avec Jérôme qui s'occupe du château de la Drôme aussi. C'est un moment de théâtre. Populaire, ouvert à tous, où on laisse le temps aux gens de venir. Donc sur 2 mois d'été, comme ça, la même pièce qui se joue tous les soirs, c'est rare, c'est quasi unique d'ailleurs, je crois, en France. Et ça dure depuis des années comme ça. Et à mon avis, ça va durer encore des années et des années. Et j'espère que cette expérience-là, surtout, je croise les doigts pour que d'autres conseils généraux se l'approprient. Et face à la même chose, parce qu'il y a des endroits historiques, ou pas d'ailleurs, magnifiques partout. Et donc, il serait de bon ton que plutôt que de faire venir parfois les gens dans des festivals où on a l'impression qu'on s'adresse à des spécialistes de la culture déjà acquis, déjà abonnés, déjà au courant de qui est au summum de son art en Europe, dans l'Europe qui chante et qui rit, de la dramaturgie. Eh bien, on pense assez peu, finalement, à ceux qui ne sont pas au courant. Voilà. À ceux qui ne sont pas abonnés à Télérama ou à un truc... Et qui ont besoin de temps, qui ont besoin d'en entendre parler, qui ont besoin que des amis, des voisins aillent voir un spectacle et leur disent « Vous allez pas vous ennuyer, vous allez voir, c'est incroyable, vous allez voir là. » Et petit à petit, à force d'en entendre parler, et comme c'est près de chez eux ou c'est sur le parcours de leurs vacances, ils finissent par y arriver. Et on en a des témoignages tous les jours de ça, de gens qui commencent alors que ça fait un peu plus d'une semaine qu'on joue. Et on a déjà comme ça un bouche à oreille qui s'instaure, de gens qui font un petit crochet par Grignan, qui réservent une place. Et puis, parce qu'il faut du temps. Voilà. Les gens ne sont pas le doigt sur la couture du pantalon à attendre les théâtres. C'est le théâtre qui doit aller aux gens. Et je trouve que ce que fait le Conseil Général, c'est ça, c'est offrir le temps aux gens d'être au courant et de prendre la décision d'y aller. On oublie toujours ça.
On vous dit un comédien engagé. Vous avez suivi la grande voie. Vous êtes passé d'abord par la Comédie française. Et pourtant, vous allez comme cela au-devant des gens. C'est vraiment quelque chose d'important pour vous.
Ah mais c'est même plus qu'important. C'est la condition sine qua non de notre existence, qu'il y ait des gens en face de nous. Et d'aller les chercher et de leur dire « Le théâtre, c'est fait pour vous. » Que vous ayez lu Shakespeare ou pas avant, nous, on a travaillé pour que ce soit pour vous. Parce que c'était écrit pour vous dès le départ. Shakespeare écrivait pour tout le monde. Donc à l'heure actuelle, quand des gens disent « Oh là là, on est venu, mais on avait peur parce qu'on se dit que Shakespeare, c'est compliqué », ça veut dire qu'il y a eu une faillite culturelle. Nous assistons à une faillite culturelle. Quand on pense ça de Shakespeare, quand on pense ça de Molière, quand on pense ça de... Oui, même, je dirais, de Corneille, ça veut dire qu'il y a une faillite culturelle. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à transmettre quelque chose. Et parce que Shakespeare, je le passe en numéro 1, mais est un auteur populaire. Totalement. Il écrivait pour tout le monde. Pour ceux qui savaient lire, ceux qui ne savaient pas lire, ceux qui étaient au courant de l'histoire de leur pays ou de l'histoire de l'Europe de cette époque ou pas. Il racontait des histoires à tout le monde. Et là, les gens sont surpris de comprendre, d'entendre, de rire. Ils découvrent que Hamlet, on peut rire. Il y a des scènes drôles, il y a des personnages comme ça qui sont brocardés, moqués par Hamlet. Et c'est dans le texte. Et ils sont surpris de ça. Donc je trouve que je sais pas qu'est-ce qui a fait cette évolution-là, qui a sacralisé comme ça des auteurs au point de les couper de leur génie pur. Qui était de s'adresser à tout le monde.
De quelle manière pensez-vous qu'un personnage comme Hamlet s'adresse encore à l'homme du 21e siècle et aux jeunes aussi de notre époque?
Oh, c'est très simple. Enfin, ça commence par être très simple, ça peut devenir très compliqué très vite, mais Mais en premier lieu, on assiste à... C'est un drame d'un homme cultivé, oui, qui a lu, qui a beaucoup lu, qui aime le théâtre, mais pas seulement, qui aime les auteurs, à qui on redemande de revenir à l'âge de pierre, à l'âge de la barbarie, en tuant l'assassin de son père. Regardez comment nous, citoyens de pays, comment on dit, évolués, démocratiques, on est embêtés avec l'ultra-violence, avec le terrorisme. On nous oblige comme ça, par des actions terroristes ou par des guerres un peu partout, comme ça, à retrouver nos vieux réflexes de défense, à faire des lois tout de suite. Dès qu'un meurtre est un petit peu salaud, un peu, enfin, tous les meurtres sont salauds, mais dès qu'un meurtre est un peu, voilà, traumatisant pour une région ou une ville, hop, nous voyons des ministres, voire un président de la République, qui va faire une loi tout de suite pour durcir, pour nanin. Cette tentation comme ça du talion qui revient tout le temps, de ce retour à la barbarie, où on dit, où on est obligé de choisir son camp entre être du côté des victimes ou être du côté des assassins, comme si le monde était si clair, comme si le monde était si simple. Le monde n'est pas binaire, n'en déplaise à notre président de la République, qui n'en finit pas d'essayer de nous convaincre de ça. Et en ce sens, oui, Hamlet est un personnage hyper moderne. Il refuse ça. Il refuse. C'est pas qu'il hésite. Il est partagé, il est troublé par ce commandement au-delà de la mort qui l'oblige à tuer l'assassin de son père. Il est ému comme on le serait tous. Et je crois que il incarne notre gêne, notre profonde gêne vis-à-vis de l'ultra-violence. Déjà, c'est le premier trait qu'on peut faire avec l'homme moderne. Et cette pièce ne parle que de l'humain. Et je pense que c'est plus que la Bible, mais vraiment, c'est le livre qui parle le mieux de l'homme, c'est la pièce Hamlet de Shakespeare. Il n'y a pas plus profond, plus attirant, plus généreux.
C'est un personnage qui vous touche particulièrement.
Oui. Le personnage et la pièce.
Pourtant, vous avez souvent joué Shakespeare. Vous avez joué Henri V, vous avez joué Richard III. Qu'est-ce qui vous... Enfin, j'ai ce sentiment, en vous en entendant parler, et puis en vous voyant le jouer, que c'est un personnage qui vous touche plus particulièrement.
Encore. Oui, mais pour toutes ces raisons que je viens d'exposer, et puis d'autres que peut-être que j'analyserai plus tard, je ne sais pas, mais y a, quand on est touché, c'est difficile, parfois, vous lisez des trucs et puis vous êtes ému, vous avez envie d'écrire à votre tour. Alors évidemment, vous écrivez moins bien que Shakespeare, mais ça vous pousse à dire, à faire des choses. Moi, j'ai appris des petits bouts d'Hamlet avant même de jouer la R, d'ailleurs, à la Comédie Française avec la Vaudan. Moi, j'ai découvert cette pièce tardivement en première année de conservatoire, donc j'avais 21 ans. Et j'en suis pas fier, mais c'est comme ça. Et ça m'a... Comment vous dire ça? Ça m'a touché. Voilà, j'étais chez moi, en Normandie, après la première année de conservatoire, au mois de juillet. J'ai ouvert ça. J'avais l'encyclopédie Universalis, parce que à l'époque, on n'avait pas Internet. Pour retrouver les noms propres, le Danemark, tout ça, machin, Elsener, etc. Shakespeare. Et puis j'étais ému par cette pièce. C'est compliqué, hein, pourquoi. Il y a le parcours d'un être seul aussi, c'est toujours très, très émouvant. Il a un côté un peu seul contre tous, y compris même contre lui-même d'ailleurs. Il est profondément incompris dès le début. Ce chagrin qu'il a, ce deuil qu'il n'arrive pas à faire de son père, alors que tout le monde passe à autre chose, tout le monde tourne la page tout de suite, et lui qui dit mais non, excusez-moi, pardon, je n'y arrive pas. Oui, je suis un prince, oui, je devrais être aguerri, oui, je devrais, mais je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à faire mon deuil aussi vite que vous, et en tout cas aussi vite que ma mère. Qui serait ému? Imaginez, moi j'aime bien revenir à des choses simples. Imaginez que ça vous arrive. Hein. Maman se remarie un mois après que papa soit mort. Avec tonton. C'est troublant, non, quand même. Déjà, rien que ça. Sans savoir que tonton a tué papa, hein. Mais déjà rien que ça. Moi, je sais pas, ça me touche, c'est bête.
Vous êtes, je dérive un petit peu, vous êtes aussi professeur. Vous êtes toujours professeur au conservatoire?
Là, non, mais j'ai démissionné l'année dernière parce que j'avais un tournage qui m'obligeait à faire un énorme régime et tout ça. Donc, c'était incompatible physiquement avec le fait de tenir une classe parce que c'est fatigant et c'est.
Mais lorsque vous expliquez un rôle ou une pièce, vous l'expliquez toujours de cette façon-là, en raccrochant justement à une situation quotidienne.
Bien sûr, bien sûr. Il y a que ça qui compte. Après, on peut s'amuser avec des formes, avec un style, avec un. Ça, on peut, c'est sûr, on peut toujours faire ce qu'on veut d'ailleurs. Hein. Moi, j'ai pas de. Les gens font ce qu'ils veulent, mais le théâtre n'a de sens que si on parle à des gens et que si ça parle à des gens. Ouais. Bah, sinon. Oui, on peut admirer plein de choses, hein, c'est sûr, mais le théâtre, c'est quelqu'un qui parle à quelqu'un d'autre. Ouais. C'est le théâtre, c'est ça. Et on s'est aperçu que, avec Jean-Luc d'ailleurs, c'est que. Jean-Luc Revol, pardon, le metteur en scène, qu'il y a de. À un moment donné, je lui dis, mais en fait, ces monologues-là d'Hamlet, ce ne sont pas des monologues. Il n'est pas seul en scène. Il n'est pas seul. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'autres personnages avec lui en scène qu'il est seul. Moi, je suis avec vous. Et c'est parce que vous êtes là que je vais dire. Vous avez vu ce comédien-là qui vient de parler et tout ça. C'est ça qui me donne envie de parler. C'est pas le fait d'être seul. Les gens ne payent pas une place pour voir un fou en scène qui parle tout seul. Ça n'a pas de sens. On les écoute même pas quand ils passent dans nos rues, les fous. Pourquoi on les écouterait dans des théâtres? Non, ça n'a pas de sens. On vient voir quelqu'un qui parle. Qui me parle, qui me dit quelque chose et qui profite de ne pas avoir d'autres protagonistes avec lui pour dire quelque chose. C'est pas du tout pareil qu'un. Shakespeare ne demande pas au spectateur de venir voir un type qui pense tout haut. Ça n'a pas de sens. Pour ça, moi, à chaque fois que je vois des acteurs se coller à des colonnes grecques pour faire to be or not to be, ça m'ennuie, je baille déjà. La pensée n'a de sens que quand elle est musculaire au théâtre, quand elle s'adresse, quand elle est incarnée. L'évanescence, on s'en fout. Ça n'a pas de sens. On ne va pas voir quelqu'un évanescent. Non, on va voir quelqu'un qui me parle et qui m'agresse ou qui me conforte dans mes idées, qui me provoque, qui me choque, qui m'écœure, qui me fait peur, enfin bref, qui me fait plein de choses, mais qui me fait quelque chose. Je viens pas là pour dire, qu'est-ce qu'il pense là dans sa tête? Non. Qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce que tu me dis, toi, en scène?